Salut Luc.
Salut.
Donc, tu es fasciné par l'histoire de ces chrétiens évangéliques là, qui ne veulent pas céder un pouce au coronavirus.
Ben, je suis surtout fasciné par deux ou trois profiteurs qui vont faire du hameçonnage dans ces églises-là pour alimenter leur crowd et leur socio-financement. Parce que dans l'église, l'église de la nouvelle création, là, dont on a beaucoup parlé de cette église-là, oui. Le rassemblement, 200 personnes, les policiers qui ne sont pas intervenus, mais ils disent qu'ils vont...
Et je pense que ce soir, il y a un nouvel événement qui est prévu. Là.
Oui, bon. Alors, qui y avait dans la foule et qui est là depuis 2 mois tous les dimanches? André Pitre et Alexis Cossette-Trudel.
Donc, deux figures importantes du mouvement complotiste.
Oui. Alors, ils sont évidemment attirés par le message du pasteur, qui a envoyé d'ailleurs une lettre à tous ses croyants et qui dit « Si on parle de Dieu dans la Constitution, il est normal qu'on parle de la Constitution à l'Église. Dans la Constitution, il dit qu'on a le droit de rassemblement, de se rassembler, et en fonction de ce droit-là, nous, on se rassemble, puis on met pas de masque. » Évidemment, tous les autres détails, toutes les autres subtilités de la loi sur les mesures d'urgence, etc., lui échappent, mais c'est son message de base. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir André Pitre dans la foule. Parce que André Pitre, c'était un membre de la meute. C'était un des porte-parole de la meute, une des figures les plus visibles au niveau des communications. En 2015, en 2013, il s'était fait connaître en donnant son appui à Gab Roy, qui avait été accusé d'actes de pédophilie. On est assez loin de l'Église, là. On est assez loin du message de Dieu. Et ça n'a pas l'air de le déranger du tout, parce que dans son travail à la meute, il y avait clairement des messages racistes là-dedans. Alors, racistes et une défense forcenée de la laïcité. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Ben, il a donné l'explication lui-même dans un petit enregistrement vidéo YouTube où il dit essentiellement, on est venu faire des lives. On est venu faire des lives.
Des directs, là.
Ouais, ça veut dire que, tu sais, il a même pas pris le soin de camoufler un petit peu son intention, de dire, on vient ici parce qu'on veut entendre d'autres voix, parce qu'on veut comprendre d'autres communautés, parce qu'on ressent de la solidarité avec des gens qui partagent nos idées. Non, on vient faire des lives. C'est un langage marketing pour dire, je m'en viens faire du hameçonnage. Je m'en viens ici me présenter, me faire découvrir, puis après ça, je vais leur demander de devenir membre, abonné à ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube? Beaucoup, 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 c'est du sociofinancement. C'est qu'il demande de l'argent pour défendre la cause. Il demande de l'argent très souvent pour défendre la cause. Fait que là, tu dis, est-ce que vraiment il y a de l'argent à faire avec ça? Bien, regardons ça ensemble, s'il y a de l'argent à faire avec ça. Lui, il a 52 000 abonnés à sa chaîne. Cossette-Trudel, il était rendu, lui, à 120 000 abonnés à sa chaîne. 52 000 abonnés à sa chaîne, si tu réussis à leur soutirer, mettons, 5 $ par année, 52 000 fois 5, c'est toujours bien 250 000, ça. Ça, c'est plus payant que col bleu, là. C'est plus payant que... Puis si tu fais 120 000 fois 5, ou fois 10, ou fois 15, là, tu arrives dans des chiffres intéressants, extrêmement payants. Et évidemment, on n'est pas dans l'ordre de grandeur des États-Unis. Tu sais, avec des pasteurs, là, les 10 plus grands pasteurs des États-Unis font tous 10 millions de dollars et plus. Puis les pasteurs les plus riches ont 100 millions de dollars d'actifs, 60 millions de dollars d'actifs, 40 millions de dollars d'actifs. Il y en a un qui a une piste d'atterrissage sur son ranch, etc. Mais il y a de l'argent à faire. Il y a de l'argent à faire avec la misère humaine.
Mais Luc, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que quand tu fais un lien avec la meute, là, puis tu dis là, que M. Pitre était à la meute, les gens qui œuvrent en radicalisation, là, les chercheurs vont te dire qu'ils ont vu pendant la pandémie les visages qui étaient justement dans ces mouvements-là, la meute et autres, là, anti-immigration, etc. Oups, ils ont migré, sans mauvais jeu de mots, vers la pandémie. Et aux États-Unis, on a vu des influenceuses qui étaient des femmes qui faisaient la promotion, je sais pas moi, du maquillage, de la mode, etc. La pandémie est arrivée, oups, elles ont migré vers toutes les conspirations de la pandémie. Et tu soulignes parce que, à la fin, une vue sur tes vidéos, c'est une vue, un like, c'est un like. Et qu'importe c'est quoi le contenu dont tu fais la promotion, si on t'envoie de l'argent, ben on t'envoie de l'argent.
Exactement. C'est un abonnement de plus avec un nom, avec une adresse email. Puis la prochaine cause, puis c'est pour ça que, tu sais, des fois, tu te dis, de quoi il parle? Pourquoi c'est tellement dystopique comme discours? On comprend pas ce qu'ils disent. Je veux dire, ça fait aucun sens. Mais moi, je pense que je commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est que un mensonge est une exclusivité. C'est que si tu dis quelque chose de faux, tu es le premier à le dire. En tout cas, tu as bien plus de chances d'être le premier à le dire que si tu dis quelque chose de vrai. Les choses vraies sont couvertes par des milliers de journalistes. T'sais. Mais si tu dis quelque chose de faux, puis plus c'est gros, plus c'est exclusif, puis plus ça marche. Alors, si tu vends le sens de l'urgence, si tu vends la nécessité de se défendre, si tu vends la nécessité... Puis là, à l'Église, ils le disent, le mot pour mot, là, Dieu est plus fort que le droit. Et Dieu est le droit. Et c'est pour ça que la police n'intervient pas dans l'Église. Remarque, c'est pas vrai. La police va intervenir, mais va intervenir en différé. Elle va envoyer, avec les noms et les visages qui ont été mis sur Facebook, elle va intervenir. Mais c'est ça le discours du pasteur. C'est, nous, on vous donne des assurances, on vous donne des messages que vous avez entendus nulle part ailleurs. Et ça, c'est bien plus payant que le maquillage. C'est bien plus payant que toutes les autres... peut-être pas que le maquillage. Le maquillage est assez gros quand même, mais c'est extrêmement payant. Et on va le voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, à chaque fois qu'il va y avoir un enjeu social, c'est quelque chose de nouveau. Alors, il va y avoir des gens comme ça qui vont venir s'associer à la cause.
Puis tu sais, Luc, il y a l'effet numérique, là, tu peux pas en faire abstraction. Moi, je suis convaincu que si cette pandémie-là avait frappé en 1990... t'aurais eu des mouvements plus complotistes. Mais à l'époque, là, tes pensées conspirationnistes puis les folies covidiotes auraient dû être imprimées sur une feuille d'ordinateur, imprimées à grande échelle dans une imprimerie, envoyées peu partout, laissées comme un trac d'une station d'autobus. C'était dur de fédérer des conspirationnistes à l'époque. Aujourd'hui, bien plus facile.
Bien plus facile, puis bien plus payant. Quand on parlait tantôt des riches preachers américains, là, par exemple, Joel Osteen, là, il y a 52 000 personnes qui viennent à la messe, mais il y a 7 millions de personnes qui l'écoutent sur Internet. 7 millions de personnes qui l'écoutent sur Internet. Il n'y a pas un curé qui a jamais réussi ça, là. L'ère Internet va donner énormément de marché à ces complotistes-là, à ces vendeurs de rêves-là.
Puis, tu sais, on peut penser là, que c'est la crédulité qui est le marché, mais moi, j'ai toujours pensé dans ces affaires-là que le marché, c'est aussi la colère. Plus tu es fâché devant une caméra sur YouTube, je pense que plus tu vas aller chercher de monde. Si tu expliques calmement c'est quoi une pandémie avec les termes scientifiques en citant des journaux scientifiques, c'est plate longtemps.
Oui.
Je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui se rend 5 minutes. Mais si tu dis que George Soros, puis Bill Gates, puis Justin Trudeau sont tous dans le même complot pédophile, là, tu vas aller chercher... Tu n'iras pas chercher tout le monde, mais ceux qui vont te regarder, ils vont te regarder longtemps, par exemple.
Oui, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans, Patrick. C'est comment ça qu'ils n'ont pas honte? Je veux dire, quand tu dis des affaires comme ça, comme par exemple, tu sais, Alexis Cossette-Trudel, il disait qu'il y avait un complot, pédophile, puis que les démocrates étaient à la tête de ça, puis que le vaccin, c'est une puce RFID qu'on va vous mettre sous la peau. Ah, mettons que tu fais de l'argent avec ça, là. Mais t'as pas honte? Je veux dire, tu dis ça, ces messages-là sortent de ta bouche. Il y a des gens qui t'entendent, là, des gens comme toi et moi.
OK. Mais regarde, tu me poses la question, là. Deux choses. Premièrement, je pense que la capacité de l'être humain à rationaliser ses comportements est sans limite, ou presque, OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, des applaudissements, ce sont des applaudissements. Puis je vais prendre l'exemple de la comédienne Lucie Laurier, OK? Lucie Laurier, bonne comédienne. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne comédienne. Mais c'est difficile de faire... De durer dans le showbiz. Il n'y a pas 250 grands rôles par année qui vont te faire vivre, etc. T'sais, Lucie Laurier, dans les dernières années, sa carrière était sur la voie de garage. Là, elle s'est trouvée une foule, elle fait des discours, elle est applaudie, elle a des likes sur sa page Facebook. Quand tu es applaudi, même si tu es applaudi par des cons, tu es applaudi.
Ah, c'est une bonne explication. J'achète ça, moi. J'avais pas compris. Puis je trouve que ça fait du sens.
Hey, Luc, merci beaucoup d'avoir
parlé. Merci à toi. Merci.